Et voici le journal d'Anne Fauquemberg. Bonjour Anne.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les partis pro-européens créent la surprise aux Pays-Bas et notamment les travaillistes. Estimation sortie des urnes, ils arriveraient en tête du scrutin européen organisé hier dans le pays. Précision d'Angélique Bouin au début de ce journal. Un résultat qui redonne aussi de l'espoir aux sociaux-démocrates en Europe. État des lieux de ces partis avec Louise Baudet.
Et au procès de France Télécom, ce sont les premiers mots des parties civiles, des témoins aussi. Nous entendrons l'une d'entre elles, une femme dont le mari s'est suicidé en 2006.
En Inde, c'est historique. Le parti nationaliste hindou du Premier ministre Narendra Modi parvient une nouvelle fois à conquérir la majorité absolue après les législatives. Quelles conséquences pour le pays en termes de valeurs notamment ? Analyse à suivre de Sébastien Farcy.
Et reportage également au Kenya, où la justice pourrait décider de dépénaliser l'homosexualité.
Enfin, Antoine Guillot nous attend à Cannes à la fin de ce journal avec deux nouveaux films en compétition. Les résultats officiels seront publiés dimanche soir après la clôture du scrutin dans les 28 pays d'Europe, mais les estimations sorties des urnes aux Pays-Bas laissent songeurs. C'est un parti pro-européen qui arriverait en tête, en contradiction avec les dernières analyses. Est-ce la figure de l'actuel commissaire Frans Timmermans qui a fait la différence? En tout cas, le parti travailliste néerlandais surclasse les populistes et les libéraux donnés favoris. Les détails de notre correspondante à Bruxelles, Angélique Bouin.
Les sondages les mettaient au coude à coude. Le parti populiste et eurosceptique de Thierry Baudet arrive en troisième position avec 11% des voix. Celui du premier ministre libéral Mark Rutte en seconde avec 14% des voix. Ce sont donc les travaillistes qui remporteraient la mise, selon Ipsos, avec 18% des votes. C'est deux fois plus qu'en 2014. Une liste emmenée par Frans Timmermans, l'actuel vice-président de la Commission européenne. Il est aussi la tête de liste des socialistes européens et à ce titre possible futur président de la Commission. Cette perspective aurait pu pousser les Néerlandais à voter pour lui, selon certains observateurs. Ces résultats ont été diffusés par la télévision publique néerlandaise. Ils sont issus de sondages sortis des urnes une fois que les électeurs ont voté. Ils sont donc plus fiables que ceux qui portent sur les intentions de vote, mais ce ne sont pas les résultats officiels. Cela seront rendus publics dimanche soir à 23h, à l'heure de la fermeture du dernier bureau de vote de toute l'Union. Ce sera en Italie.
Les explications d'Angélique Bouin. Un résultat qui donne de l'espoir à la liste PS Place Publique, à la peine dans les sondages pour sa tête de liste, Raphaël Glucksmann. Le Parlement européen peut réellement basculer à gauche ce dimanche. Mais que peuvent vraiment espérer les sociaux-démocrates? Ils constituent actuellement le deuxième plus gros contingent d'eurodéputés avec 187 élus réunis dans un groupe baptisé S&D. État des lieux de cette social-démocratie européenne. C'est avec vous, Louise Baudet.
Les socialistes menacés de disparition, pas même capables de s'assurer une présence au Parlement, ça c'est le pire des scénarios français, à ne pas confondre avec la donne européenne plus contrastée. De ce côté, c'est le bon vieux verre à moitié plein et à moitié vide. Côté verre plein, la bonne santé du socialisme ibérique, l'espagnol Pedro Sanchez vient de remporter les législatives, le portugais Antonio Costa devrait rester au pouvoir à l'automne, les sociaux-démocrates gouvernent aussi en Suède, viennent de l'emporter d'un cheveu en Finlande et ont le vent en poupe au Danemark. Ensuite, il y a ceux qui reviennent de loin, le Parti démocrate italien qui talonne les 5 étoiles dans les intentions de vote aux européennes, le Parti socialiste belge qui devrait remonter la pente aux élections fédérales et régionales également dimanche. Et puis il y a le verre vide, l'effondrement du PS français, un SPD allemand en pleine crise d'identité et le Labour britannique dans la tourmente du Brexit. Le lent déclin se confirme donc, mais les sociaux-démocrates bougent encore et devraient conserver leur deuxième place au Parlement, si tant est qu'ils restent unis face à la délicate question des alliances, essentielle pour décrocher des postes clés. Le SPD allemand serait prêt à saisir la main tendue des macronistes au risque de fâcher l'aile gauche de son groupe. Un vrai camaïeu de rose qui pique parfois les yeux, même au royaume du compromis qu'est le Parlement européen.
Et si les gagnants de cette campagne européenne n'étaient pas ceux que l'on croit, le thème du billet politique de Frédéric Seyss à 8h15, c'est juste après ce journal. Les élections européennes de ce dimanche, elles risquent aussi de marquer l'histoire par le plus haut taux d'abstentionnistes depuis 1979 et la création du Parlement européen. Une abstention qui risque d'atteindre les 77% chez les 18-25 ans, selon les dernières enquêtes, notamment celle des jeunes européens. En cause, le manque d'informations ou encore la complexité du fonctionnement des institutions européennes. Les jeunes électeurs pensent aussi que l'Europe n'est pas pour eux, mais pour leurs parents. Et à cela, Vera Jourova, l'actuelle commissaire à la justice, aux consommateurs, à l'égalité des genres, répond par une histoire personnelle.
My granny, who I really loved much, she told me many times that.
J'avais une grand-mère que j'adorais et qui ne cessait de me répéter que le bijou de la personnalité d'une femme, c'est sa modestie. Et que je devais garder cela en tête toute ma vie. C'est avec ce bagage, cet algorithme que j'ai commencé à travailler, que je me suis lancée en politique. Une phrase me suivait partout. Ne parle que lorsqu'on te donne la parole. Il a fallu que je me fasse violence pour me débarrasser de ce monstre. J'ai dû me forcer à me dire, parle quand tu as quelque chose à dire, prends la parole. Il faut avoir conscience de ce genre de handicap, du fait que nous portons chacun en nous des formes d'autocensure, de manque de confiance en nous. Une fois que vous dépassez ces barrières, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc c'est mon message aux jeunes électeurs, soyez vous-même, soyez fort, ne laissez personne parler à votre place ou même avant vous, alors nous serons tous plus forts.
Extrait d'Insta d'Europe, le projet multimédia et interactif que vous avez peut-être suivi sur nos réseaux sociaux. C'est coordonné par Cécile de Kervas-Doué. Rendez-vous ce soir de 17h à 18h. Le grand reportage est en public cette semaine dans l'agora de la Maison de la Radio à Paris avec cette question. Comment réintéresser les jeunes au projet européen ? Précision dès maintenant sur notre site internet franceculture.fr. Les jeunes, justement, abstentionnistes peut-être, mais toujours mobilisés pour l'écologie. Nouvelle grève pour le climat aujourd'hui dans le monde entier. Près de 90 villes mobilisées en France, à Paris. Le cortège partira à 13h de la place de l'Opéra. En Grande-Bretagne, la Première ministre Theresa May devrait annoncer aujourd'hui la date de sa démission. Son départ devrait intervenir après la visite dans le pays du président américain Donald Trump. C'est ce que rapporte la BBC, conséquence de son échec à faire adopter par 3 fois l'accord sur le Brexit.
8h07 sur France Culture, la suite du journal d'Anne Fauquemberg. Dans les matins, en Nouvelle-Calédonie, un indépendantiste a été élu à la tête du Congrès.
Roch Wamitan a été élu grâce au soutien d'un nouveau parti wallisien et futunien. À 68 ans, il est une figure du mouvement indépendantiste Kanak. Le Congrès doit élire dans quelques semaines un gouvernement collégial. Si les mêmes équilibres sont conservés, les indépendantistes pourraient emporter la direction de l'exécutif calédonien. L'intersyndicale de General Electric à Belfort s'insurge contre des propos tenus dans une interview par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, selon qu'il n'y a pas de débouché pour les turbines à gaz produites sur le site. CFE-CGT et Sud Industrie ont sorti un communiqué hier pour contre-argumenter, citant les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie. 4000 salariés sont confrontés à une restructuration d'ampleur annoncée depuis des mois. Les syndicats doivent également déposer plainte aujourd'hui contre leur direction pour des risques psychosociaux. Nouvelle journée d'audience hier au procès de France Télécom. D'anciens dirigeants et cadres sont poursuivis pour harcèlement moral. 10 ans après une vague de suicides de salariés et la suppression de 22 000 postes entre 2006 et 2008. Hier, le tribunal correctionnel de Paris a écouté le témoignage de Marie-Pierre Bugeaud. Son mari, qui travaillait à France Télécom, s'est suicidé en 2006. Elle s'est exprimée comme simple témoin.
La fragilisation de tous ces personnels, elle s'est faite de manière très insidieuse au sein de cette entreprise qui au départ était une entreprise peut-être pas exemplaire mais pleine de bienveillance à l'égard de ses salariés. Et je crois que tout ça s'est fait de manière silencieuse, sans faire beaucoup de bruit, jusqu'à ce que tout ça éclate avec les suicides de 2007 et 2010. Michel, c'était quelqu'un de très pudique, de très discret et il n'aurait jamais mis en cause la hiérarchie. Il consultait un psychologue, mais le problème c'est qu'il ratait la plupart de ses séances parce qu'il ne s'autorisait pas à ne pas travailler. Il ne prenait pas de temps pour lui. C'est quelqu'un qui ne s'est jamais protégé. Rien ne ramènera mon mari. Moi, je ne suis pas partie civile. Je n'attends rien. Et voilà, je ne demande pas de réparation, je ne demande rien. Si je témoigne aujourd'hui, c'est aussi pour éviter que ce monde du travail, qui est d'une violence extrême, qu'on arrête de maltraiter les gens, que ce soit dans la fonction publique ou dans les entreprises privées, si mon témoignage peut servir à ça, eh bien, écoutez, tant mieux, j'aurai fait ce que j'ai à faire. Mais pour moi, de toute façon, ça ne changera rien.
Un témoignage recueilli par Antoine Marette. Menacé par les spéculateurs sur les marchés boursiers, Rallye, la maison mère du géant de la grande distribution Casino, se tourne vers le tribunal de commerce de Paris. Le groupe est désormais placé en procédure de sauvegarde, procédure qui doit lui permettre de réaménager une dette colossale. En Inde, le parti nationaliste du BJP revient au pouvoir avec une majorité encore plus forte. Il conquiert 55% des sièges de l'Assemblée, plus des deux tiers si l'on ajoute les alliés régionaux. C'est une victoire historique obtenue malgré des résultats économiques médiocres. Un score qui valide la politique hindouiste du gouvernement du Premier ministre Narendra Modi. Ce parti a fondamentalement redéfini les valeurs de la nation indienne et son nouveau mandat de 5 ans pourrait les changer de manière irréversible. C'est une analyse de notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcy.
C'est la première fois en 35 ans qu'un parti indien réussit à conquérir une majorité absolue lors de deux élections consécutives. Et le seul qui a pu réaliser cet exploit jusqu'à présent était le Congrès, le parti fondateur de l'Inde moderne. Le BJP s'inscrit donc aujourd'hui dans l'ADN de ce pays continent. C'est la nouvelle Inde, comme aime le répéter Narendra Modi, et ses valeurs sont très différentes de celles de la nation séculière née en 1947. La laïcité est un masque, a affirmé hier Narendra Modi devant des milliers de partisans, et nous l'avons maintenant retiré. Depuis 5 ans, les préceptes de l'hindouisme dictent en effet d'importantes décisions telles que l'interdiction du commerce des vaches considérées comme sacrées, ce qui a chamboulé l'économie agraire. La mythologie hindoue est maintenant considérée comme une réalité scientifique. Selon le Premier ministre, l'existence de Ganesh, le dieu à tête d'éléphant, prouverait que l'Inde ancienne maîtrisait la chirurgie esthétique. Pour le BJP, l'hindouisme doit donc pénétrer chaque cellule de la société et les 170 millions de musulmans indiens doivent se soumettre à cette réalité s'ils veulent rester vivre dans le pays. Dans cette nouvelle Inde, leur existence est de fait considérée comme suspecte tant qu'ils ne vénèrent pas le dieu Ram des hindous. Car en fin de compte, pour ce parti nationaliste hindou, l'Inde est hindou et on ne peut donc aimer ce pays qu'en adorant les dieux de la religion majoritaire.
Sébastien Farcy, le correspondant de RFI pour France Culture à New Delhi. Au Kenya, la justice devrait se prononcer ce matin sur la dépénalisation ou non de l'homosexualité, crime passible de 14 ans de prison actuellement dans le pays. Le verdict est attendu depuis plus d'un an, mais à chaque fois il est reporté car le sujet est très sensible dans cette société ultra-conservatrice. Charlotte Simonard, vous avez recueilli des témoignages d'homosexuels qui vivent au Kenya.
John, la trentaine, est assis sur un banc à l'abri des regards. Il vient d'un petit village du centre du pays et a grandi dans un milieu très religieux. À 25 ans, il parle de son homosexualité à un prêtre en qui il avait confiance.
J'ai dû subir une séance d'exorcisme. C'est très effrayant pendant des heures. Ils prient autour de vous et essayent de vous libérer du démon qui est en vous. Dans leur prêche, les prêtres affirment que Dieu déteste les homosexuels, que les personnes gays iront en enfer et sont séniles.
Terrorisé, il prétend avoir été guéri et se cache pendant des années.
C'est comme ça en Afrique. Ici, on ne peut pas aller voir quelqu'un et lui dire qu'il nous plaît et lui proposer un rendez-vous. Ça m'a beaucoup coûté émotionnellement. J'ai longtemps cru que je ne méritais pas de vivre.
John s'est finalement enfui de son village et assume désormais qui il est. Son père le renie depuis. Ernest, lui, n'a jamais parlé de son homosexualité à ses proches. Il vit des amours cachés, mais les risques sont grands.
C'est très dangereux. Il y a tellement d'exemples autour de moi. Vous rencontrez quelqu'un, il vous emmène chez lui, et là, 5 autres personnes vous attendent. Ils vous tendent un piège, certains sont violés, d'autres maltraités, battus, escroqués. C'est très risqué. Tu dois garder tes distances et regarder qui t'observe. Tu dois te contrôler en permanence, sans jamais montrer tes émotions. C'est très frustrant.
Devant la justice kényane, John et Ernest sont considérés comme des criminels, selon une loi datant de l'époque coloniale.
Des témoignages recueillis par Charlotte Simonard. Donald Trump devrait rencontrer son homologue chinois Xi Jinping fin juin à Osaka à l'occasion du G20. Le président américain a assuré hier ne pas avoir perdu l'espoir de parvenir à un accord commercial avec la Chine. Il est possible que Huawei, l'entreprise chinoise accusée de menacer la sécurité des États-Unis, soit finalement inclus dans le futur accord. Dernière ligne droite pour la compétition au Festival de Cannes. C'est avec un certain état d'épuisement que nous vous retrouvons, Antoine Guillot. Bonjour.
Bonjour Anne.
Vous visionnez pour nous tous les films de la compétition et vous avez été servi hier avec Make to My Love d'Abdelatif Kechiche et Le Traître de Marco Bellocchio.
Oui, vous l'avez dit, Anne, c'est dans un état d'épuisement certain que le festivalier aborde cette dernière journée de compétition canoise, non seulement parce que depuis 10 jours, celle-ci s'est révélée d'une qualité et d'une force comme jamais depuis longtemps, non seulement parce que le dernier film vu, Mektoub My Love Intermezzo, s'est terminé très tard dans la nuit, après 3h30 de projection, mais parce que, avec cette suite des aventures de la bande d'amis et de cousins sétois, dont le premier opus avait été, il y a 2 ans, refusé par Cannes, Abdelatif Kechiche radicalise encore son cinéma, au cœur du film Une nuit interminable, dans une boîte du même nom, une fête dionysiaque de corps vibrants et débordants qui n'en finit pas, comme s'il fallait retenir l'été et la jeunesse finissant, et puis au cœur de cette fête, une très longue et explicite scène de cunnilingus, le tout est regardé par ce double du cinéaste et du spectateur qu'est Amine, celui qui observe mais n'agit pas. De la langue et du regard, il est encore question dans Le Traître, le nouveau film de Marco Bellocchio, après la montée du fascisme de Vincere et les années de plomb de Buongiorno Notte, le plus grand cinéaste italien en activité ausculte à nouveau l'état et la violence endémique de son pays en centrant son film sur Tommaso Buscetta, ce soldat de Cosa Nostra qui avait permis au juge Falcone, en lui parlant, de décapiter la mafia sicilienne au début des années 1990. À la fascination de longue date du cinéma mondial pour la figure charismatique du mafieux et au spectacle de ses meurtres, Bellocchio oppose une autre mise en scène, celle du tribunal, vu comme un espace opératique où se libère la parole et s'évite les regards, et où sa conception lyrique du cinéma s'exprime avec génie. Une salle d'audience, finalement, ça vaut bien une boîte de nuit.
Merci Antoine Guillot, bonne journée à Cannes, ne vous endormez pas, la météo de ce vendredi 24 mai, un ciel lumineux sur une grande moitié est mais aussi en Normandie et dans le nord, temps couvert avec de la pluie au sud-ouest, les températures en ce moment 11 à Château-Chinon, 14 à Saint-Brieuc, 17 à Angoulême, 18 à Douai, 20 à Colmar, 21 à Saint-Étienne et à Cannes.
Merci beaucoup Anne Fauquemberg. Dans quelques instants, on va continuer nos autres regards sur l'Europe. Le regard d'un écrivain, Emmanuel Ruben. Il sera rejoint par une politologue, philosophe, Justine Lacroix. Elle sera en duplex de Bruxelles et ils nous donneront leur vision de l'Europe, tandis que Frédéric Seize, lui, va nous donner sa vision d'une Europe peut-être plus politique dans votre billet. Frédéric Seize, bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. On va se demander si les gagnants de cette campagne des européennes en France n'étaient pas ceux que l'on croit.